Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Que faut-il faire pour augmenter les taux d'accès au courant électrique en RDC? Nous en parlons avec M. Emmanuel Moussouyou, il est coordonnateur de la Dynamique Polé, qui est un réseau des ONG qui œuvre dans le cadre de la promotion d'accès à l'énergie électrique à travers les pays. Bonjour M. Emmanuel.
Bonjour M. Tati.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service. Nous aurons également au cours de cette première partie M. Justin Mobomi. Il est chargé de suivi des politiques publiques au Centre National d'Appui au Développement et à la participation populaire CNADEP tout à l'heure. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Par SMS, envoyez-nous vos questions, témoignages et suggestions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo réalise et coordonne Okapi Service et Mimi Kindou s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ces numéros.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Moins de 10% de la population congolaise dispose d'un accès à l'électricité, 35% dans les zones urbaines avec 50% du taux d'accès du courant électrique à Kinshasa et moins de 1% dans les zones reculées. Et pourtant, le courant électrique est un facteur capital dans le développement d'une nation. Pour augmenter les taux d'accès au courant électrique sur l'ensemble du territoire national, le secteur a été libéralisé depuis quelques années. Cependant, plusieurs projets qui sont en cours de développement n'ont pas encore produit des résultats satisfaisants, selon plusieurs observateurs. Quels sont les facteurs qui empêchent l'émergence des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité en RDC? Que faut-il faire pour augmenter les taux d'accès au courant électrique sur l'ensemble du territoire national? Nous en parlons avec nos invités au studio, ici Monsieur Emmanuel Moussouyou. Bonjour à nouveau.
Merci, bonjour. Oui.
Quel est le constat que vous faites concernant surtout l'accès au courant électrique à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC?
Alors, merci beaucoup Monsieur Tati, je salue tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et comme vous l'avez dit, de plus en plus, on est en train de constater que la situation est en train de se dégrader. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, la CORAP, qui est la Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des Réformes et de l'Action Publique, avait, avec ses partenaires, organisé une marche dans la ville de Kinshasa où la population était dans la rue pour réclamer que la situation s'est dégradée et il fallait des mesures et des actions concrètes. Et c'est le cas dans plusieurs provinces. Peut-être que il y a une province qui est en train de faire quelques exploits dans le sens d'améliorer, n'est-ce pas, le taux d'accès des populations à l'énergie. C'est notamment la province du Nord Kivu. Mais la situation générale, elle est assez chaotique parce que les choses ne s'améliorent pas. Alors, aujourd'hui, après plusieurs années, la loi a été promulguée en 2014, la loi portant secteur de l'électricité, qui a eu pour avantage, n'est-ce pas, de mettre en avant ce qu'on appelle la libéralisation du secteur, mais aussi les aspects liés à la décentralisation du secteur. Mais fort dommage est de constater plusieurs années aujourd'hui que cette loi existe, les mesures d'application existent, mais les choses n'avancent pas avec une vitesse que nous souhaitons. Nous reconnaissons aujourd'hui que il y a quand même des efforts qui sont fournis, ça c'est clair, à travers l'ANSER qui est en train de se déployer, qui est en train de fournir beaucoup d'efforts. On voit certains résultats aujourd'hui
dans les Kassai notamment,
mais je pense que on a la foi que les choses peuvent bien se passer. Mais au fond, il y a un problème. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais au fond, il y a un problème. Comme nous l'identifions aujourd'hui. La loi existe, les mesures d'application existent, mais on vient de se rendre compte finalement que cette loi ne permet pas ce qui est des investissements dans le secteur. Les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, notamment dans le Nord Kivu et partout ailleurs, ont beaucoup de difficultés à fonctionner parce que la loi n'est pas adaptée. Il y a de ces dispositions, par exemple, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le régime juridique, même des petites initiatives qui pouvaient venir de certains investisseurs ont du mal à avancer parce que les procédures sont très lourdes. Oui, et j'ai vu que beaucoup d'entreprises étaient en train de se plaindre que, par exemple, l'autorité de régulation qui devait faciliter ces procédures n'est pas déjà sur terrain. Elle est centrée au niveau de Kinshasa et ça alourdit. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est au fait dans le cadre réglementaire où on peut aujourd'hui se rendre compte que le cadre fiscal n'est pas adapté. N'est pas adapté et ne peut pas permettre à ce qu'il y ait plus d'investissement. Parce que comment vous pouvez vous imaginer que dans un secteur comme celui de l'énergie, où on veut que les populations aient accès à l'énergie, les entreprises qui sont là, qui sont en train d'opérer, sont appelées à payer plus de 60 taxes en une année. Nous l'avons constaté, plus de 60 taxes. Le ministère de l'énergie lui-même a plus de 12 taxes. Vous allez vous rendre compte là-bas qu'il faut payer des taxes au ministère de l'Intérieur, il faut payer des taxes au ministère de la Justice, le ministère de l'Environnement, à certaines institutions, etc. L'ensemble de tout ça coûte très cher pour les opérateurs et ça ne peut pas avoir de l'implication sur l'accès à l'énergie, comme aussi ça ne peut pas faciliter des investissements. Ça, c'est un aspect. Il y a, encore une fois de plus, un exemple plus concret, toujours par rapport à, n'est-ce pas, à un exemple plus concret, toujours par rapport à ce que j'étais en train de dire sur la problématique des taxes. Comment vous pouvez vous imaginer qu'on est en train de militer? D'ailleurs, la loi a été promulguée dans le but d'améliorer l'accès pour tous à l'énergie.
Oui.
Mais parmi ces mesures, vous imaginez qu'il y a une taxe qu'on appelle la taxe de raccordement. Cette taxe, malheureusement, c'est une taxe qui coûte très cher pour la population. Parce que vous imaginez, n'est-ce pas, une maison non résidentielle, par exemple, un client non résidentiel est appelé à payer au moins 1000 dollars comme taxe pour se raccorder au réseau, sans compter les frais qu'ils doivent payer auprès de... Alors, on s'imagine qu'il y a un monsieur qui veut investir, qui veut mettre un petit salon de coiffure pour se créer un peu de ressources. Et ce salon, on peut s'imaginer qu'il ne peut pas dépasser un budget de 500 dollars, s'imagine.
Oui.
Vous voyez.
Oui.
Mais quelqu'un qui a investi autour de 500 dollars et a payé
1000 dollars pour les raccordements.
Plus de 1000 dollars. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faciliter l'accès pour tous à l'énergie. Et nous estimons que ça fait, aujourd'hui, il faut davantage que l'autorité prenne conscience que ça fait partie des facteurs qui ne peuvent pas aider à ce qu'on améliore l'accès pour tous à l'énergie et la situation sera down, comme nous sommes en train de le constater aujourd'hui.
Monsieur Emmanuel, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Justin Mobomi, on me signale qu'il est déjà en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le chargé de suivi des politiques publiques au Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, CNADEP en sigle. Dites-nous, concernant la RDC fait face à beaucoup de défis concernant l'augmentation du taux d'accès à l'électricité. Est-ce que vous partagez ces constats-là?
Vous-même, vous venez de le dire. Il est malheureux de constater que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à pouvoir donner accès à l'énergie à nos populations. Et vous avez posé la question à mon collègue Emmanuel tout à l'heure de savoir quels sont les éléments qui constituent le goulot d'étranglement dans cet effort-là de donner accès à l'énergie. L'un des éléments importants, c'est la mauvaise gestion. Je ne sais pas si vous êtes au courant des révélations de l'IGF sur la SNEL. Donc, il y a un problème de mauvaise gestion caractérisée de la SNEL qui constitue également un goulot d'étranglement pour l'accès des populations à l'énergie. Si vous prenez, vous soutirez dans les réseaux 50 mégawatts pour donner aux miniers alors que c'est une entreprise d'un groupe de gens, vous privez la population d'une bonne partie du pays d'avoir accès à l'électricité. Donc il y a là-bas fondamentalement un problème de mauvaise gestion. Et je profite de cette occasion pour féliciter l'UGF et lui demander de vraiment de faire des enquêtes et d'élucider les situations pour transmettre à la justice, afin que la justice soit rendue. On ne peut pas accepter qu'une société de l'État, on puisse se couper comme ça les gens tous les jours. Dans tout Kinshasa ici, il n'y a personne qui peut avoir du courant pendant 3 jours de la semaine. Il y a des messages partout. Et l'une des raisons, c'est parce que on est en train de soutirer l'énergie au profit de deux ou de quelques individus, alors que l'énergie aurait dû être distribué aux populations.
Oui, mais en même temps aussi, Monsieur Justin, s'il vous plaît, mais en même temps aussi, ce sont les miniers qui financent les travaux de maintenance et de la SNEL, ce sont des clients comme tous les autres ménages. Ici, ils ont financé pour la réhabilitation, la maintenance du réseau, ils doivent avoir du courant.
Non, je parle de la mauvaise gestion, c'est-à-dire, on est en train de prendre de manière indue l'électricité qui revient à la SNEL pour les distribuer frauduleusement à des miniers. Je suis d'accord que les miniers constituent un des partenaires importants de la SNEL, mais je parle ici dans le cadre de la mauvaise gestion qui a été révélée par les enquêtes de l'UGF. L'autre élément qui constitue le goulot d'étranglement, c'est l'attention qu'on accorde plus aux grands projets au lieu de faire des petits projets à proximité qui peuvent donner en moins de temps, en moins de coûts et de manière très rapide de l'électricité aux gens. Nous venons il y a quelques jours de valider un rapport d'étude de faisabilité d'une centrale hydrolienne qu'on va poser pour distribuer, qui peut donner à la limite 200 mégawatts. Ça, ce sont des choses tout à fait pratiques et la durée, ça peut prendre 6 mois. Vous vous rendez compte qu'en 6 mois, on a un projet et en plus à Kinshasa. C'est vraiment extraordinaire. Donc, nous avons des potentialités énormes. Nous ne devons pas focaliser notre attention beaucoup plus sur des grands projets qui prennent trop de temps et qui nécessitent trop de moyens et souvent que nous n'avons pas. Utilisons les moyens que nous avons. Le mieux qu'on peut faire pour faire Matébé a été fait, je crois, à moins de 50 millions de dollars. Vous avez des exemples concrets qui puissent nous aider à avoir de l'électricité. L'autre élément qui constitue le goulot d'étranglement, c'est la lenteur ou bien la non-réhabilitation des infrastructures, les infrastructures que nous avons. Vous savez que nos infrastructures datent d'il y a plus de 30 ans.
Oui.
Souvent, il y en a d'autres qui datent des années des indépendances. Donc, ce sont des infrastructures à réhabiliter. Je profite ici pour lancer un appel aux autorités sur la situation de Zongo 1. Zongo 1 est dans un état de vétusté impossible à supporter. Nous étions à Zongo, l'eau maintenant commence à entrer même dans la centrale. Donc je salue le courage des ingénieurs de la SNEL qui sont là et qui travaillent pour maintenir cette infrastructure. Mais vraiment l'État doit faire un effort pour demander à la SNEL de réhabiliter dans les plus brefs délais Zongo 1, parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie que nous utilisons ici, il n'y a pas tellement Inga, mais il y a aussi Zongo qui alimente Kinshasa. Et donc si dans très peu de temps on continue à laisser Zongo comme ça, je crois que la situation de la ville de Kinshasa en matière d'accès à l'électricité va s'aggraver, parce que Zongo 1 va simplement arrêter parce qu'il est dans un état de vétusté impossible à décrire.
Monsieur Justin, gardez l'écoute, hein, restez en ligne, nous allons revenir à vous. Monsieur Manuel, en même temps aussi, un autre constat est qu'il y a beaucoup de projets de micro-centrales à travers les pays qui sont inachevés dans la périphérie de Kinshasa et puis à l'intérieur du pays. Cela ne favorise pas aussi l'accès à l'électricité à bon nombre de ménages.
Merci beaucoup, Monsieur Tati. Je suis parfaitement d'accord avec mon collègue Justin Mobomi qui venait de réagir. Et à votre question, moi, je dirais clairement que le plus grand problème, c'est que il a parlé de la mauvaise gestion, et cette mauvaise gestion ne touche pas que la SNEL. Elle part aussi au-delà de la SNEL, dans le secteur dans sa globalité. Parce que comment vous voulez-vous que les choses puissent s'améliorer alors que vous lancez un projet qui n'a pas été bien planifié? C'est pas concevable. C'est-à-dire un projet où on ne planifie que construire le barrage et on oublie la dimension transport et distribution. C'est inconcevable. Vous imaginez. Donc la mauvaise gestion, il y a ce que Monsieur Justin a parlé, mais je pense que un des plus grands problèmes, c'est qu'il n'existe pas une planification qui puisse aider le gouvernement ou le pays à améliorer son secteur. Au-delà de cela, c'est aussi au fait tout ce qu'il y a eu comme détournement autour de ce projet. Parce qu'il y a Kakobola, Katende, presque tous les fonds étaient déjà décaissés, mais vous allez vous rendre compte que les travaux sont soit à 70%, à 80%, mais où est parti l'argent alors que le projet n'est pas fini. Mmh. Donc c'est tout ça qu'il faut que l'autorité ouvre l'œil et le bon. Et surtout, sanctionner sévèrement toutes ces personnes qui sont à la base, n'est-ce pas, de cette mauvaise gestion. On est d'accord que tout ce qui s'est passé à la SNEL, il faut pas que ça reste comme ça. Mmh. Mais aussi, il faut qu'on soit sévère dans la façon d'évaluer, n'est-ce pas, tous ces projets qui sont restés, des micro-barrages qui sont restés. Parce que nous, on est plutôt pour le développement des micro-barrages, des systèmes décentralisés, parce que ces systèmes vont aider à ce que, en très peu de temps, qu'il y ait accès à l'énergie à moindre coût, n'est-ce pas, à moindre coût et aussi avec beaucoup d'efficacité. Mais ici, on est face, parce que votre question parle des micro-centrales qui cadrent même
inachevé,
avec notre
donc,
vision.
Inachevé, il y en a plein.
Mais le problème, c'est ouais. qu'il faut améliorer la gouvernance mmh. autour de tout ça. Mais mmh. j'insiste le plus sur la planification. C'est pas normal qu'un pays puisse évoluer sans une planification énergétique. On est en train d'élaborer la politique de l'énergie, mais il faut une planification énergétique qui peut aider à ce que les choses puissent bien s'améliorer.
Que faut-il faire pour augmenter le taux d'accès à l'électricité à travers les pays en RDC? Nous en parlons avec nos invités. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS et nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Nous commençons par Godet, un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kikwit. Bonjour, monsieur Godet.
Radio Capi, bonjour à l'invité, bonjour à vous les journalistes. Je vous salue en passant.
Que faut-il faire pour augmenter les taux d'accès à l'énergie électrique? Pouvez-vous nous faire la situation, le point sur l'accès au courant électrique au niveau de la ville de Kikwit?
Monsieur le journaliste, dès que j'ai entendu l'émission, j'ai commencé à pleurer. Laissez-moi vous dire la vérité, j'ai commencé à pleurer. Depuis que j'ai né, de 1970 jusqu'alors, je n'ai pas vu le courant dans notre ville de Kikwit. Depuis que j'ai né, j'ai souligné le mot que j'ai né. Mais c'est le journaliste, la ville de Kikwit est à un mètre de la capitale. Mais depuis l'époque coloniale, la ville de Kikwit n'a jamais eu ne plus qu'une moitié de courant. Je ne sais pas, le président en place qui entre nous promet sans réaliser. Monsieur le président, je voulais un peu poser la question à l'invité. La loi est là. Le mesure est là, et je peux ajouter les droits, notre droit congolais est là. Mais nous, les habitants de Kikwitoua, qu'est-ce que nous avons fait dans ce pays pour qu'il n'y ait pas, ne plus qu'un territoire ou un secteur quelconque? Non! Vraiment, je vous dis à ce moment, quand vous devez, nos enfants demandent est-ce qu'il y a du courant dans ce monde? Je ne sais pas. Nous, la ville de Kikwit, nous avons fait sortir les hommes très intellectuels. Par exemple, les Mouzitu, les Gizenga sont là, même les Jingakoufou. Ils sont là, les grandes autorités. Mais dans notre ville, il n'y a pas de courant depuis l'indépendance. On nous a trompés, soit en disant Kakobola. Mais laissez-moi vous dire, Kakobola, c'est une échantillon. C'est une échantillon, monsieur le journaliste. On fait l'argent propre d'un partenaire jusqu'alors que Kobola fait 20 ans sans réaliser. 20 ans, je vous dis. La ville de Gikouite, dès que le pays, le CPA a créé, la ville de Gikouite n'a jamais bénéficié du courant. Je ne sais pas dédié à quoi, l'invité peut me répondre. Laissez-moi vous dire encore, monsieur l'invité. Vraiment, je ne sais pas, est-ce que dans la ville de Gikouite, est-ce qu'il y a le service de l'ESNEL? On ne connaît pas le service de l'ESNEL, car l'ESNEL, dans la loi, existe dans notre pays. Nous souffrons. Il y a des Koulouna, il y a des bandits, il n'y a pas moyen de déambuler. Quand vous arrivez vers 19h, vous entrez, allez dormir, pas moyen de sillonner depuis que nous avons né. Monsieur le journaliste, est-ce que l'invité peut nous dire de quoi il s'agit, l'interdiction de courant de Kakobola? Ça traîne jusqu'alors, c'est dit à quoi? Et le gouvernement ne s'occupe pas de nous parce que le problème du courant, monsieur le journaliste, c'est le problème du gouvernement. Ce n'est pas le problème d'un individu ou d'un partenaire, non. C'est le problème du gouvernement. Au moment que je vous parle, dans le pays de l'Afrique du Sud, on bénéficie de notre courant de Inga. Mais le courant de Inga a passé à un mètre de la ville de Gikouite. Un mètre, j'ai dit, de la ville de Gikouite. Allez-y même à Brazzaville. Il y a le courant du Congo. Mais pourquoi nous qui sommes un mètre de la capitale, nous ne bénéficions pas? Vraiment, je suis en train de pleurer et je m'arrête par là. Merci pour m'avoir accordé.
Merci beaucoup, M. Godet. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Gikouite que vous intervenez. Les invités auront l'occasion de vous répondre. Hein. Donc, nous allons cette fois-ci à Lubumbashi pour donner la parole à M. Charles, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, M. Tati. Bonjour aussi aux invités.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre?
Par rapport au sujet, M. les journalistes, je demande d'abord d'entrer des jeux aux invités. Où en est-on avec le projet Mouinda? Jusque-là, il y a silence radio. Où en est-on vraiment? Et puis, pour remédier à cette situation-là, moi je pense qu'on doit combattre trois facteurs. Le premier est le monopole qu'a la SNEL ici en RDC. Parce que nous constatons que c'est ce monopole-là qui fait à ce que la SNEL puisse vraiment nous faire souffrir comme ça.
Charles, s'il vous plaît, le secteur a déjà été libéralisé. Hein? La SNEL n'a plus le monopole dans la desserte et l'énergie électrique. Le secteur a déjà été libéralisé.
Oui, théoriquement, monsieur le journaliste, mais pratiquement jusque-là, on ne sent rien. C'est pourquoi nous constatons que c'est le même monopole qui continue. Vous voyez un peu avec sa voisine, la régie des eaux. Aujourd'hui, il y a les forages partout. La régie des eaux, vraiment, est en train un peu de perdre même sa clientèle. Alors, nous voulons à ce qu'il y ait aussi d'autres concurrents avec la SNEL. Et puis, deuxième élément, depuis que le Congo est Congo, le courant ou bien l'énergie a été surtout distribué dans des zones minières que d'autres populations. Voilà le deuxième facteur qu'il faudra aussi combattre. Qu'on puisse donner cet accès-là à tout le monde et non seulement dans des zones minières. Parce que c'est le cas de le dire vraiment.
Oui, mais M. Charles, vous qui êtes à Lubumbashi, vous avez l'énergie électrique en permanence dans les ménages.
Oui, nous en avons. Mais avec toutes les déceptions du monde, monsieur le journaliste, en tout cas. Il y a les délestages sans fin, il y a les délestages qu'on n'arrive même pas à signaler au préalable la population, et les jours ici, il y a un match national, tout comme les matchs internationaux. En tout cas, n'espérez pas. Et au moment où nous parlons, ici au quartier de l'air, par exemple, un nombre de quartiers en souffrent. Il n'y a pas du courant. On ne sait pas la raison jusque-là. On nous a toujours dit que... Si c'est pendant la saison sèche, il y a diminution d'eau dans nos cours d'eau.
Oui, il y a étiage, oui.
Or, en géographie, monsieur les journalistes, vous les connaissez de plus que moi. S'il fait, si c'est la saison sèche au nord, au sud, c'est la saison des pluies, et vice versa. Mais cette raison-là, vraiment, n'a pas sa place. Alors, voilà un peu. Le secteur qui enrichit les gens en un clin d'œil, une fois vous y arrivez, dans quelques mois, tout simplement, vous êtes véhiculé. Vous construisez, vous faites l'Europe, vous faites les CID. Alors, mais malheureusement, la population ne se retrouve pas. Alors, il faut aussi que l'on puisse mettre fin à l'impunité, parce que l'impunité dans ce secteur-là, en tout cas, se porte à l'aise. Voilà un peu, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, monsieur Charles. Je rappelle que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Nous restons dans la même ville, hein, pour donner la parole à Emmanuel, à qui nous disons bonjour. Monsieur Emmanuel, vous êtes en ligne?
Oui, oui, je suis en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Que faut-il faire pour améliorer les taux d'accès à l'énergie électrique? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Ok, merci beaucoup pour ce sujet très important. Vraiment, je pense que lorsque mon prédécesseur a relevé les défis, a relevé ici les problèmes qui nous guettent au sujet des courants électriques. Donc, pour moi, je peux dire que ça concerne presque toute la République. Parce que je m'en souviens, j'étais déjà à Kinshasa, à Bukavu, Kananga, et même ici à Lubumbashi. Je vois que c'est toujours la même situation. Et j'arrive à comprendre que non, ce n'est pas seulement les problèmes de quoi, c'est l'irresponsabilité de ceux qui gèrent vraiment ces secteurs. Puisque je vois aujourd'hui, comme mon prédécesseur l'a relevé, lorsque la régie des eaux a failli, les gens aujourd'hui s'en servent de forages partout, ça aide la population. Ici à Lubumbashi, c'est tellement terrible. Les gens savent très bien qu'à Lubumbashi, il y a du courant. Mais nous qui sommes ici à Lubumbashi, comme il a dit au quartier des communes Kampemba Lubumbashi, arrivez au centre-ville de Lubumbashi, vous allez regretter. C'est des bruits de générateurs partout, comme si dans cette ville, il n'y a pas de courant. Le courant peut arriver à 21h, les coupures à partir de 15h, ça répare à 5h du matin. Donc vous vous réabonnez, vous n'arrivez même pas à utiliser. Donc je voudrais d'abord demander à nos autorités. Nous avons beaucoup de chantiers qui sont en cours, des barrages par-ci, par-là, à travers la République. Qu'ils mettent un peu du sérieux, qu'ils laissent la situation de faire. Aujourd'hui, on attaque, on arrive à 50%, on laisse, on y va encore de l'autre côté. Non. Qu'ils se concentrent d'abord sur barrage par barrage, afin que la population soit servie en énergie. On souffre sérieusement ces derniers temps.
Oui, merci beaucoup, M. Emmanuel, pour votre témoignage et revendication. Merci beaucoup. M. Justin, vous avez suivi nos auditeurs, hein, Godet de Kikwit qui s'est plaint. Les courants électriques n'est pas présent, au fait, au niveau de la ville de Kikwit et ses environs.
Oui, exact. En tout cas, je suis de cœur avec nos collègues et nos amis qui sont à Kikwit. Mais il faut savoir que le projet de Kakobo là avait pour mission aussi
d'électrifier la zone, la région,
en énergie électrique la ville de Kikwit. Mais comme Emmanuel l'a dit, c'est les mauvaises planifications qui font que on a financé la partie infrastructure, mais la ligne de transmission n'a pas été financée, chose qu'on est en train de faire maintenant, alors que Kikwit aurait dit déjà, s'il y avait une bonne planification, avoir accès à l'énergie. Pour d'autres, je peux dire, pour améliorer l'accès à l'énergie, il faut, première chose, assainir la gestion de la SNEL. La SNEL est très mal gérée. Je sais bien que, comme vous l'avez si bien rappelé à l'auditeur de tout à l'heure, que le secteur a été libéralisé, mais la SNEL reste pour le moment l'opérateur le plus important. Et pour ça, la gestion de la SNEL doit être assainie pour que vraiment cette société soit bien gérée. Parce que si elle n'est pas bien gérée, nous allons souffrir les martyrs, nous allons continuer à souffrir les martyrs à cause de la mauvaise gestion. L'autre problème, il faut que l'État puisse mettre des moyens pour que nous puissions développer des petits projets dans tous les territoires, pour que dans chaque territoire, vous puissiez avoir une infrastructure qui peut alimenter au niveau des territoires, au niveau des villes, pour que cette vérité qui est partagée, selon notre collègue de Kikwit, que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu du courant. Cette vérité-là est partagée presque dans tous les villages du pays, en dehors de quelques rares comme Amatebe dans les Nord Kivu, où les Virunga avec ses installations a pu éclairer certains villages. Mais dans l'ensemble, en tout cas, c'est le même constat dans nos villages. Depuis que nos ancêtres sont là, les villages ne sont pas éclairés, parce que on regarde trop de grands projets au lieu de regarder les petites infrastructures qu'on peut placer dans différents pays de manière décentralisée. Troisième élément, c'est
la réhabilitation des infrastructures. Il faut que l'État puisse mettre le moyen pour qu'on puisse réhabiliter les infrastructures. Je crois que la société civile bien gérée peut avoir le moyen de réhabiliter ces infrastructures. Tantôt là, j'ai parlé des zones 1 parce que j'ai pris seulement un exemple. Mais il y a beaucoup d'autres qui doivent être réhabilités. Mais zones 1 doit être réhabilité surtout parce que même nous ici à Kinshasa, nous dépendons des zones 1. Alors si zone 1 n'est pas réhabilité, il n'est pas surprenant qu'un jour nous puissions avoir des gros problèmes en plus de ce que nous avons déjà. L'autre problème, c'est la loi. Il y a beaucoup de domaines, de secteurs de la loi qui ne facilitent pas le développement du secteur. Il faut que on puisse revoir, le ministère puisse programmer la relecture de la loi parce que ça fait déjà jour pour jour 8 ans depuis que la loi relative au secteur de l'électricité a été promulguée, et la loi accuse certaines insuffisances qui mériteraient d'être réhabilitées pour booster le secteur. L'autre facteur, le cinquième, c'est la fiscalité. Emmanuel l'a dit, c'est une fiscalité asphyxiante. Excusez-moi, qui asphyxie.
Qui étouffe les opérateurs. Les opérateurs
qui sont là. Ouais. Donc, cette fiscalité-là ne permet pas de booster les secteurs. Tous les privés que nous avons là, que ce soit Sokodé, que ce soit Virunga, que ce soit Nourou, ils ont des projets, il y a trop de demandes à Sokodé. Quand Sokodé veut maintenant importer du courant du Rwanda. Virunga est en train de faire une autre centrale, mais la zone n'est pas sécurisée du tout. Nourou est en train de prévoir de faire Goma 2. Donc, pour que ces opérateurs puissent améliorer, augmenter leur parc, il faut que l'État puisse regarder la fiscalité. La fiscalité qu'on a là-bas, c'est une fiscalité qui ne permet pas le secteur de se développer. Il faut que tout de suite qu'on puisse regarder, c'est vraiment une fiscalité qui constitue un goulot d'étranglement pour le développement du secteur. Donc, l'autre secteur, élément que je peux ajouter pour booster le secteur, pour donner accès à l'énergie, c'est d'accorder des moyens à l'ANCER. Parce que l'ANCER a pour mission de promouvoir l'électrification dans les milieux ruraux et périurbains. Je vous dis que l'ANCER est en train de faire beaucoup d'efforts, mais elle n'a pas encore de moyens suffisants. J'appelle ici les partenaires de la RDC dans les secteurs qui puissent aider l'ANCER à mobiliser plus de moyens. Parce que si l'ANCER mobilise plus de moyens, nous allons avoir beaucoup plus de zones de notre pays qui vont être éclairées, surtout au niveau rural, parce que c'est là vraiment où le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Donc si les partenaires nous écoutent, il faut qu'ils mettent des moyens au niveau de l'ANCER qui est géré par des gens très très forts et qui ont la confiance des dirigeants et qui peuvent nous aider à améliorer ce secteur-là. Voilà quelques éléments que je peux énumérer, c'est-à-dire une bonne gestion dans la SNEL, mais mettre les moyens pour les petites infrastructures de manière décentralisée, surtout les énergies renouvelables dans toutes nos provinces, réhabiliter les centrales, zone 1 est en train de mourir, nous devons réhabiliter cette infrastructure qui nous a aidé pendant longtemps.
Monsieur Giscard, je reviens.
La fiscalité doit être raisonnable et puis donner les moyens à l'ANCER pour aider à électrifier les milieux ruraux. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question.
Restez en ligne, monsieur Justin, je vais revenir à vous, parce qu'il y a encore d'autres auditeurs qui attendent, mais une question à vous, monsieur Emmanuel. Il y a l'auditeur de Lubumbashi, monsieur Charles, qui a voulu savoir ce qu'est devenu les fonds Mwinda, qui a aussi été mis en place dans le but d'améliorer l'accès et les taux d'accès à l'électricité à travers les pays.
Alors, merci beaucoup à tous les auditeurs qui ont posé des questions et c'est très intéressant. Peut-être juste un petit commentaire rapide sur notre ami Godet de Kikwit. C'est vrai, ce qu'il dit, c'est ça que tout le monde dit à travers le pays, parce qu'à Kikwit, quand même, Kikwit est parmi... ils n'ont pas d'électricité, mais on peut voir... déjà, les statistiques disent que en milieu rural, il y a moins d'1%
de population
qui a accès à l'électricité. C'est-à-dire que la RDC est dans le noir. Parce que s'il faut voir entre la partie rurale et la partie urbaine, on nous dit clairement que plus de 60% de population est dans la partie rurale. C'est-à-dire que la
majorité
le pays est dans
n'a
le
pas
noir.
Accès au courant électrique.
Mais on peut s'imaginer qu'en plein 21e siècle, on est là, la population n'a jamais vu de l'électricité, alors qu'on est dans un pays qui a un potentiel énorme.
Très
c'est un
élevé.
Paradoxe qui ne peut pas être soutenable. Et nos auditeurs ont fait appel justement aux autorités, aux chefs de l'État, de prendre cet aspect des choses vraiment en toute conscience. Alors, à la question de savoir où est-ce qu'on en est avec le fonds Mouinda. Déjà, il faut savoir que généralement, quand des fonds sont mis en place,
oui.
Il y a des parties qui, n'est-ce pas, il y a des contreparties, au fait, qui...
Pour alimenter les
pour
fonds.
Pour alimenter les fonds.
Oui.
Il y a le gouvernement congolais, à l'époque, le président Tshisekedi a donné autour de 5 millions de dollars, alors que le fonds visait 500 millions de dollars. Donc, on peut s'imaginer, c'est quoi le pourcentage des 5 millions par rapport à 500 millions. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème, et depuis, il y a très peu de partenaires qui ont justement appuyé, qui ont
financé, mis de l'argent
dans ce fonds-là. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est comme ça que Justin disait qu'il faut que l'autorité prenne conscience et surtout que l'autorité aide l'ANCER à mobiliser des fonds, ou si pas à financer justement ce fonds-là. Donc c'est-à-dire que le fonds Mouinda, il y a eu très peu de moyens, et à l'époque l'ANCER nous parlait de comment est-ce qu'il fallait recruter les gestionnaires du fonds, comment est-ce qu'il fallait lancer
mobiliser des appels d'offres,
etc. Mais je pense que ce processus-là a beaucoup évolué. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de fonds. Mais j'ai vu que récemment, l'ANCER a lancé beaucoup d'appels d'offres pour soutenir au fait de projets qui pouvaient aller dans ce sens-là. Peut-être que vous aurez l'opportunité d'inviter l'ANCER pour qu'il donne
Il a promis de répondre à l'invitation de Capi Service dès que les entreprises seront sélectionnées.
Je suis très sûr qu'ils viendront. Alors, il y a d'autres questions sur le monopole. Je ne voudrais pas vraiment rester
vous attarder là-dessus.
Mais au moins, il faut noter que depuis 2014, certes, le secteur a été libéralisé, mais le plus grand problème, c'est que, je l'ai dit dans mon introduction, il y a un problème dans le cadre légal. Le cadre légal, le cadre fiscal, ne permet pas ce qui est plus d'investissement. Mais il faut noter que déjà, j'aime bien parler de Goma parce que c'est un cas d'exemple pour nous. Déjà à Goma, par exemple, la SNEL n'a plus une force là-bas parce que la SNEL a plus ou moins 5 mégawatts, alors que Nuru et Virunga déjà sont au-delà de 8 mégawatts. En réalité, ça doit aller au-delà de plus ou moins 13 mégawatts qui desservent dans la ville de Goma. Donc il faut noter que déjà aujourd'hui, SNEL est minoritaire dans la ville de Goma. Mais partout ailleurs, SNEL a encore n'est-ce pas, son rôle à jouer pleinement, comme à Kinshasa, où il est presque le seul opérateur. C'est comme ça que je suis d'accord qu'il faut assainir la SNEL. Il y a aussi l'autre question sur la préoccupation sur le minier. Il faut noter que effectivement, un de notre combat aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que le gouvernement privilégie l'accès des populations à l'énergie. Dans la vision de la société civile et des communautés locales qui a été partagée sur le développement du secteur de l'énergie, la première exigence dit que il faut que l'autorité donne à tous les Congolais accès à l'énergie au moins au niveau 1 et 2 d'ici 2030. Le niveau 1 et 2, c'est ce niveau où on a quand même la possibilité d'avoir la lumière. On a, n'est-ce pas, une poste télé, radio.
Ou un poste récepteur.
Récepteur, radio, on peut charger son téléphone.
Son téléphone.
C'est possible, n'est-ce pas, avec toutes les ressources que nous avons. Et l'autorité doit travailler ardemment. Et c'est possible de donner accès à au moins 50% de Congolais à une énergie qui va à partir du niveau 3 au niveau 5. Et là, on a la possibilité d'utiliser quand même quelques appareils. Mais cela ne suffit pas. Parce que la raison pour laquelle on donne généralement de l'énergie aux miniers en priorité, parce qu'on estime qu'ils ont la capacité à payer cette énergie-là, mais aussi ils ont la capacité, n'est-ce pas, de ramener des moyens pour développer des milieux dans lesquels nous nous retrouvons. C'est le cas aujourd'hui du Haut-Katanga où on privilégie des miniers.
Oui.
Mais en réalité, le développement ne suit pas. En réalité, où vont ces fonds? Qu'est-ce que ces fonds apportent réellement comme plus-value dans nos communautés?
C'est presque rien. Oui.
Ce qui fait que c'est inutile. On donne beaucoup plus d'énergie aux miniers, mais il faut maintenant que l'autorité, parmi nos exigences, nous avons demandé que l'autorité puisse développer, n'est-ce pas, une politique sociale, des mécanismes qui peuvent aider les communautés ou les populations
à se développer,
à développer des activités économiques qui leur donnent un peu de moyens, pour leur ménage, mais aussi des moyens pour, n'est-ce pas, payer cette électricité.
Nous retournons au standard, monsieur Emmanuel. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Nous attendons vos questions, témoignages et suggestions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et par dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Georges, vous êtes à Lubumbashi, bonjour, bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, M. Tati Mabuku. Bonjour aussi à tous nos deux invités.
Allez droit au but.
Oui, première question, j'aimerais demander à nos deux invités pourquoi le gouvernement national et notre État est incapable de nous faire des barrages. Je vous donne un exemple, M. Joly. Le barrage de Mpianamwanga se trouve à quelques kilomètres de Manono. Ce barrage ici est capable d'alimenter même la ville de Kalemi, ou bien même le territoire environnant de celui de Manono. Bien, et ce barrage-là, c'était la fierté. Donc, le courant qu'on avait à Manono pendant la période coloniale, je pense que cela devait être même le meilleur de la RDC. Mais après la guerre de la CEL, M. Tati, on a constaté qu'avec l'arrivée du président de la République à l'époque du président Kabila, c'était que des promesses. Il nous disait non. Pendant les 5 ans, nous allons construire les barrages de Mpianamwanga et on a remarqué une panoplie de ministres qui faisaient des va-et-vient pour visiter. Et jusque-là, c'était resté une lettre morte. Mais ce que je remarque...
Georges, s'il vous plaît, comment s'appellent les barrages?
Les barrages de Mpianamwanga.
Mpianamwanga.
Qui se trouve dans les territoires de Manono.
D'accord.
On attend les efforts de l'APSEC qui va venir habiter. Mais pour les gouvernements... Je remarque qu'en ce qui concerne les barrages, c'est rien. Alors, comment peut-on parler de l'indépendance de notre pays seulement quand il s'agit, par exemple, des Occidentaux qui parlent des problèmes politiques, on parle, mais en ce qui concerne la construction des barrages, les gouvernements restent muets. Alors, c'est une question que j'aimerais demander à nos deux invités. Pour la dernière, M. Tati, ce qui concerne la distribution de l'énergie, nos deux invités peuvent m'éclaircir. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes privilégiées pour bénéficier le courant par rapport aux autres? Je vous donne l'exemple. Ici à Lubumbashi, il y a des quartiers où le courant fait 10-16 heures. Après, on remarque le délaissage, mais dans d'autres courants, malgré il y a le délaissage, mais il y a quand même le courant qui dure de ce côté-là. Mais à la fin, on remarque une facture de l'ESNEL, peut-être en oubliant que peut-être la communauté a moins bénéficié de l'énergie. Mais à la fin, on remarque qu'il y a des factures et des factures, mais il y a peut-être une catégorie de personnes qui bénéficient d'énergie par rapport aux autres. Voilà tout, M. Joly. Bon site pour l'émission Okapi Service.
Merci beaucoup, M. Georges. Je rappelle que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, retournons à Kinshasa pour donner la parole à monsieur. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, Tati. Bonjour, Radio.
Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps.
Ok. Si vous avez si bien suivi les deux invités, que les problèmes sont partout en RDC. Mais quand tu parles du secteur de l'électricité libéralisé, oui, ils ont cité, il y a plus de 60 taxes que ces entreprises-là doivent payer. Écoutez, quelqu'un qui vient pour investir avec cet environnement fiscal, je crois, n'est pas facile pour investir. Deuxième chose, ici, quand on parle de l'électricité, tous nous voyons la SNEL. Aujourd'hui, la SNEL est presque, je dirais, c'est une entreprise qui est presque morte. Ce qu'il faut faire pour que les taux de l'électricité soient un peu augmentés dans notre pays, il faut que SNEL ouvre son capital aux investisseurs privés. Lorsqu'il y aura des investisseurs privés, la façon même de gérer l'entreprise va changer et puis le capital frais va aider à la SNEL d'acquérir des nouveaux matériels pour que sa capacité de production puisse être augmentée. Sinon, nous allons commencer à crier, lorsque la SNEL va rester dans sa phase actuelle. On ne va pas bien évoluer avec les problèmes de l'électricité. Merci.
Merci beaucoup, monsieur. Bienvenu. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. La liaison n'est pas bonne parce qu'il a plu ce matin. Cette fois-ci, allons à Bounia pour donner la parole à Justin. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour à l'invité. Bonjour à mon ami Justin qui est à ligne de radio.
Allez-y rapidement, Justin. Ton amour.
Oui, merci beaucoup, monsieur Tati, pour m'avoir accordé en tout cas la parole. Mmh. Oui, à ce qui concerne, à mon avis, le manque du courant dans notre pays, c'est parce que nos dirigeants, donc les dirigeants ne veulent pas, donc c'est manque de volonté. C'est seulement les dirigeants veulent satisfaire leurs besoins. Aux intérêts privés, monsieur Tati. Nous avons toutes les potentialités dans ces pays pour avoir le courant. Et puis, je ne sais pas pourquoi les dirigeants, pourquoi les autorités ne veulent pas, en tout cas, valoriser ce secteur. Mais il y a, je pense que... Je me pose souvent la question, monsieur Tati, de savoir, nous avons des barrages. Nous avons à peu près 4 barrages. Il y a Inga 1, Inga 2, voire même Inga 4. Mais pourquoi ne pas électrifier nos villes? Allez voir une ville comme Kisangani. C'est une ville là où nous vivons dans une obscurité totale. Ici, à Bounia, n'en parlait même pas. C'est la MONUSCO qui est en train de mener des panneaux solaires par-ci, par-là. Et maintenant, est-ce que vraiment, nous les Congolais, les dirigeants de ces pays, est-ce que vraiment ils ont la conscience? C'est la première question. Et même s'ils ont la conscience, est-ce que l'IGF peut parvenir aussi à auditer ces secteurs? La SNEL, monsieur Tati, la SNEL, quand même à Goma, c'est à Goma où les opérateurs économiques et même ils se sont mobilisés, monsieur Tati, de commencer parce qu'à Goma, en tout cas, c'est une ville qui est maintenant... Mais allez voir combien de taxes que les gens de Goma sont en train de souffrir. Mais est-ce que cet argent sont canalisés dans les trésors publics? Est-ce que cet argent se volatilise entre les poches de nos soi-disant dirigeants? Donc, nous devons avoir la conscience. Nos dirigeants doivent y avoir la conscience. Et je pense que comme IGF est là, bon, IGF existe, avait existé depuis l'époque, mais merci beaucoup à Fatih qui a commencé à valoriser ses services de IGF.
Merci beaucoup, M. Justin. On est coincé par les temps. Hein. Merci beaucoup d'avoir intervenu depuis la ville de Bounia. M. Justin Mobomi, qu'est-ce que vous dites aux derniers auditeurs là qui viennent d'intervenir? Hein?
Merci beaucoup.
En quelques minutes, parce qu'on n'a plus assez de temps. Ouais.
Je suis vraiment en phase de nos compatriotes qui sont en train de lancer ces SOS partout où ils sont pour dire qu'ils ne comprennent pas. Nous également, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que notre gouvernement n'arrive pas à mettre des moyens pour que nous puissions avoir de l'électricité dans nos provinces. Je l'ai dit au début dans l'émission, j'ai dit que l'un des problèmes majeurs qui nous dérange ici, c'est la mauvaise gouvernance. Le travail de l'IGF, quelqu'un a parlé de l'IGF. L'IGF est en train d'auditer la SNEL et je vous dis les premières informations, c'est très alarmante. On parle de détournement, on parle de l'énergie qui aurait dû bénéficier aux Congolais et à la population, mais qu'on a donné aux miniers pour des intérêts partisans comme Monomo vient de le dire ici. Donc il y a un problème. J'ai parlé également de la réhabilitation. Monomo a parlé de la ville de Kisangani. Il y a la centrale de Tchopo. Ces centrales-là aussi méritent d'être réhabilitées. Ce sont des centrales qui datent de plus de 30 ans, mais jusqu'à aujourd'hui qui ne connaissent pas de réhabilitation. Ça ne peut pas fonctionner en plein régime. Donc il faut qu'on mette des moyens pour réhabiliter nos centrales. L'autre intervenant a parlé aussi de la ville de Goma, qui est un modèle en matière de libéralisation. Mais les partenaires là-bas sont en train de se décourager. Mais pourquoi sont-ils en train de se décourager? Nous l'avons dit. La fiscalité est une fiscalité étouffante, une fiscalité qui est en train d'étouffer au lieu de promouvoir les activités. Il y a également une lourdeur administrative qu'il faut vraiment déplorer au niveau de Kinshasa ici. beaucoup de dossiers sont encore à Kinshasa. Ici même à Kinshasa, nous avons participé à la validation de certaines études de faisabilité. Par exemple, pour les centrales solaires du côté de Maluku là-bas, des centrales solaires de plus ou moins 400 et 600 mégawatts. Depuis, ça fait plus de 10 mois que nous avons validé cette étude-là. Jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'ont pas commencé.
Oui, mais il n'y a plus rien sur le site. Monsieur Justin, oui.
S'il n'a pas, on ne lui a pas donné quelque chose, il ne peut pas laisser passer les dossiers. Mm. Il faut que les autorités du secteur se réveillent. La lourdeur administrative qu'on constate là-bas, c'est une lourdeur administrative entretenue pour que favoriser la corruption et la mauvaise gouvernance. Nous dénonçons ça et nous demandons aux autorités d'ouvrir l'œil pour que ça puisse aller vite. Parce qu'il y a déjà des projets dont les études de faisabilité ont été validées, mais ces projets n'ont jamais connu un début de commencement, simplement parce qu'au niveau de l'administration, il y a des gens qui pensent que s'ils ne retirent pas quelque chose, le dossier ne peut pas passer.
Monsieur Justin, Monsieur Justin, s'il vous plaît.
L'État a mis des moyens.
S'il vous plaît, Monsieur Justin. Oui, merci beaucoup, Monsieur Justin. On est coincé par les temps. L'État est parti à la tranche et en train de s'égrener. Donc, merci beaucoup, Monsieur Justin Mobomi. Nous rappelons que vous êtes les chargés de suivi des politiques publiques au Sénadep. Merci d'avoir été avec Okapi Service. À la prochaine occasion, nous aurons le temps d'en reparler parce que ces sujets suscitent beaucoup d'intérêt de la part des auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine occasion.
Merci.
Monsieur Emmanuel, pour chuter, est-ce que vous avez une interpellation à l'intention surtout des décideurs et des acteurs qui œuvrent dans le secteur pour améliorer les taux d'accès au courant électrique à travers les pays?
Merci beaucoup, mais je pense que ça sera injuste de laisser quelques questions pendantes. C'est vrai qu'on n'a pas assez de
rapidement,
temps.
Rapidement, rapidement.
Il y a par exemple deux questions ici que je note parmi les plus importantes, au-delà de cette question de Pyanamwanga et autres, parce que nous avons fait une publication qui a démontré qu'il y a au moins 63 barrages qui sont restés abandonnés
à travers le pays.
Donc nous avons demandé à l'autorité de mettre en place un plan de réhabilitation. C'est-à-dire identifier des centrales qui appartiennent au privé, identifier des centrales qui appartiennent à l'État,
de mettre
et prendre
les
dispositions pour mettre des moyens. Même les centrales qui appartiennent au privé, il y a un certain nombre d'années qui sont requis. Si seulement ces centrales ne sont pas réhabilitées, je pense après 25 ans,
ça doit
l'État
revenir à
peut
l'État.
Récupérer. Et donc il faut développer un plan de réhabilitation de ces centrales. Une autre chose, c'est par rapport à la personne qui a parlé de la SNEL. Je pense que il a dit qu'il faut ouvrir le capital de la SNEL. Je pense que c'est très important parce que aujourd'hui, c'est vrai, la SNEL aussi a été transformée en une entreprise, n'est-ce pas, commerciale, ce qui fait que il y a une possibilité, n'est-ce pas, que certains autres privés puissent prendre des capitaux dans la SNEL. Mais le problème est lequel? Le problème, c'est que il faut finaliser la réforme de la SNEL qui a commencé. Jusqu'aujourd'hui, on a du mal peut-être à dire la nature juridique même de la SNEL et tout ce qu'il y a par rapport à sa conformité à la loi, parce que la loi exige la segmentation du secteur, distribution, transport et autres. Tout ça là, on ne peut pas le dire parce que la réforme de la SNEL entamée n'est jamais arrivée à bout. Donc nous invitons l'autorité par rapport à cela à revoir ce travaux. Nous avons vu les changements qu'il y a eu à la SNEL. L'actuel DG, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien, c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées, mais nous pensons qu'il faut beaucoup plus de rigueur et surtout aller jusqu'à finaliser la réforme pour que le travail ait des résultats qu'il faut. Une autre question que j'ai vue ici, c'est...
Rapidement, rapidement.
Très rapidement, bien évidemment. C'est la question de Inga 1, Inga 2. Quelqu'un pose la question, mais nous avons Inga. Et pourquoi cela n'aide pas à électrifier le pays? La réponse est simple. Et c'est même une interpellation, encore une fois de plus, que aussi longtemps qu'on va rester dans un système centralisé où on construit des grands barrages comme Inga et on passe des longues lignes de transmission, la RDC ne pourra pas être électrifiée. Donc la solution pour cela, c'est un secteur décentralisé, ce qui fait que l'autorité doit davantage encourager que au niveau local, que les managers, les dirigeants au niveau local puissent avoir les capacités qu'il faut de sorte à développer les secteurs, parce que ils ont aujourd'hui à travers la loi la possibilité d'agir comme autorité au niveau de la province, au niveau des entités décentralisées pour faire avancer les choses. Voilà donc.
Monsieur Emmanuel Moussouyi, nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la dynamique polaire. Merci d'avoir été avec nous à la prochaine occasion.
C'est moi qui vous remercie.
Mais ça m'a pas signé guitare. Yo.